Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je reçois Thierry Zarkon, un presque habitué de notre émission, rendez-vous dominical sur ces thématiques chrétiennes et soufis ce matin, puisque nous allons aborder la question de chrétiens et soufis en Anatolie. Alors ce sont des lieux qui sont en Cappadoce, avec le sanctuaire d'un saint soufi du XIIIe siècle, Hadji Bektache, et des lieux saints partagés dans les Balkans. Thierry Zarkon, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors vous allez nous expliquer un petit peu cette thématique chrétien et soufi en Anatolie. J'ai l'impression qu'il s'agit de rencontres.
Oui, c'est de rencontres entre une forme assez souple de l'islam. Parce que bon, on le sait, le soufisme se décline de plusieurs manières. On a des confréries assez austères, puis des confréries très très souples, aux limites d'une certaine hétérodoxie. Et ce sont ces soufis-là, parce qu'ils ont revu un petit peu le texte coranique. Donc ils ont, en quelque sorte, n'ont pas donné l'importance donc que les plus radicaux ont donné aux critiques à l'égard des chrétiens. Donc ils se sont ouverts, ils sont allés vers les chrétiens, ils ont échangé, ils ont fraternisé, ils ont partagé des légendes, des hagiographies et des sanctuaires.
Alors nous parlions de la Cappadoce, nous parlions de ce saint Hadji Bektache, le XIIIe siècle. Qui était-il ?
Alors c'est un saint tout à fait particulier et c'est un cas de soufisme marginal d'une certaine façon. On caractérise donc le... Bon, c'est le maître éponyme d'une confrérie qu'on va appeler le Bektachisme. Hadji Bektachvili.
Un personnage historique, déjà.
Qui a tout à fait une histoire. Alors naturellement, l'histoire se mêle à la légende. On a des hagiographies qui datent près du... Enfin, les textes sont du XVIe siècle, mais la géographie a pu s'écrire entre le XIVe et le XVe siècle. C'est un saint particulier marqué par l'Asie centrale. Il vient du Khorasan, donc qui est la région du nord-est de l'Iran, mais qui fait culturellement partie de l'Asie centrale. Son système a fonctionné un peu comme une espèce d'éponge absorbante. On retrouve dans ce confrérisme, dans ce soufisme, des croyances centra-asiatiques, des éléments du mazdéen, des croyances nestoriennes, manichéennes, du schisme ensuite, de l'ultra-schisme, ce qu'on appelle, c'est un schisme, c'est vraiment ouvert de manière tout à fait étonnante, et également des idées chrétiennes. Donc c'est une espèce de syncrétisme, si on veut, qui a été standardisé d'une certaine manière au XVIe, XVIIe siècle, mais qui donc est toujours resté ouvert à l'autre parce qu'il est fait en quelque sorte de nombreux éléments empruntés à l'autre, avec naturellement un lien, on peut dire, soufi et un fond culturel musulman.
Un fond culturel qui est venu d'Asie centrale par ce qu'on appelle la route de la soie.
Alors c'est surtout dans ces grandes périodes de tension, XIIIe siècle, les Mongols se déploient dans l'Asie centrale et naturellement massacrent tout ce qui se trouve sur leur chemin et terrorisent les populations turques qui habitent déjà l'Asie centrale, les oasis d'Asie centrale, et qui s'enfuient vers l'Inde, vers l'Afghanistan, vers l'Anatolie, et qui petit à petit vont se presser sur les frontières de l'Empire byzantin, et petit à petit fabriquer leur propre empire, donc l'État seldjoukide d'abord, et qui ensuite amènera les États ottomans au XVIe siècle.
Alors nous parlons d'Hadji Bektache, on ne peut pas ne pas évoquer non plus une autre grande figure du soufisme de la même période, c'est Mevlana Rumi.
Alors Mevlana... lui aussi s'installe en Anatolie à la même période. Il y a des relations entre les Bektachis, les premiers Bektachis, les Mevlevi. C'est une grande figure. Il vient aussi d'Afghanistan, de la Bactriane. Et lui aussi va d'une certaine manière, on peut dire, hybrider ou un peu associer la grande tradition mystique persane, puisqu'il écrit en langue persane, avec ce qu'il va retirer, ce qu'il va découvrir dans ce monde anatolien qui est non seulement donc influencé par la présence arabe très proche, mais également donc il va aller vers les Byzantins. Et on sait que dans l'histoire, là ça nous est rapporté par des chroniques historiques, mais des hagiographies également, qu'il y avait de très importantes relations entre Mevlana, son couvent de Derviche Mevlevi, et les chrétiens et même les moines donc de la région de Konya.
À Konya, voilà, qui était la capitale, l'une des capitales importantes de l'Empire Seljoukide.
La capitale.
Nous parlions de lieux saints partagés, pardon, nous étions en Cappadoce, donc en évoquant la figure d'Hadji Bektache. Et vous me disiez que c'était un lieu, finalement, où chrétiens et musulmans, à l'époque, se recueillaient et venaient prier ensemble. Il faut rappeler peut-être qu'à l'époque, la proportion entre les populations est toujours très en faveur de l'élément chrétien, je crois.
Les chrétiens constituent la population principale de l'Anatolie, et ils sont même la dominante dans la population de la ville d'Istanbul, simplement jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc effectivement, s'il y a eu on peut dire invasion, occupation musulmane de ces régions, il n'y a pas eu extermination des chrétiens. Donc je veux dire, si l'Anatolie et la Turquie s'évident de ces chrétiens, c'est à la suite de la guerre d'indépendance et des échanges de population surtout. Mais donc dans ces périodes anciennes, naturellement, les échanges étaient extrêmement importants.
Expliquez-moi la notion de lieu saint partagé.
Alors, les lieux saints partagés sont parfois des lieux de dispute aussi. En fait, le lieu saint partagé, il y a une vieille tradition déjà dans la géographie d'Ajibektaj, donc, qui se fabrique au XVe siècle, où le saint, donc un saint musulman, reçoit l'hospitalité de chrétiens dans des petits villages de Cappadoce. Alors on a une géographie particulière où dans ce village, les chrétiens l'accueillent et lui indiquent qu'ils ne peuvent lui offrir que du pain de seigle parce que le blé ne pousse pas dans cette région. Et le saint fait un miracle et fait en sorte que le blé à l'avenir poussera dans cette région. Alors les chrétiens le remercient et de cette époque, donc c'est la géographie qui parle, à partir de ce moment-là, ils disent, alors je me souviens un petit peu de mémoire du passage, que les chrétiens, à partir de ce moment-là, vont se rendre chaque année en pèlerinage sur le tombeau de ce saint, Ajibektaj, qui se trouve d'ailleurs à peu près une cinquantaine de kilomètres de la Cappadoce, où ils disent qu'ils lui feront des sacrifices, qu'ils déposeront des ex-voto et organiseront des fêtes. Alors, ça c'est la géographie qui parle. Mais ce n'est pas un artifice géographique, puisqu'en fait... On s'est rendu compte que jusqu'au début du XXe siècle, chrétiens et musulmans se rendent sans distinction sur ce tombeau. Qu'il y a même, on a structuré de cette façon l'accueil des populations musulmanes comme chrétiennes. Et l'aspect intéressant, c'est que dans l'esprit des chrétiens, c'est un saint chrétien. Donc en fait, on a affaire à un saint hybride. C'est à la fois Ajibektaj, mais c'est aussi saint Haralambos, comme le disent les chrétiens. Un témoignage d'un voyageur français à la fin du XIXe siècle indique que tous ces visiteurs musulmans comme chrétiens sont accueillis, qu'on les nourrit, la fameuse turba, la fameuse soupe, le pilaf, le plat de riz, et d'autres plats nationaux, indique notre voyageur, et surtout qu'en entrant dans le tombeau du saint, les visiteurs chrétiens font le signe de la croix, tandis que les musulmans vont dans la prière, donc vont faire leur prière dans la mosquée voisine. Donc on a là vraiment le cadre d'un sanctuaire partagé. Et chose intéressante, on trouve dans la littérature écrite en karamanli, c'est-à-dire, c'est du grec, du turc, mais en caractère grec, on trouve des petits manuels à l'usage du pèlerin, donc écrits dans cette langue, lors de leur visite du sanctuaire d'Ajibektaj. Donc ça veut dire que c'était vraiment non seulement établi, tout à fait reconnu, mais en même temps on rédige des petits manuels de pèlerinage pour le chrétien, donc pour ces chrétiens locaux. Donc on voit un petit peu l'institutionnalisation de ce pèlerinage.
Et cette tradition de pèlerinage, de rencontre donc sur ce tombeau, a duré jusqu'au début du XXe siècle, donc jusqu'à cet échange de population entre la Grèce et la Turquie, où la Cappadoce s'est vidée de ses habitants.
Alors jusqu'à ce moment, oui. Après, bon, il y avait moins de Grecs dans ces régions, donc cela a disparu. Mais on a noté, par exemple, que dans le cadre de certains lieux saints du même type, des lieux saints partagés, dans une petite ville qui s'appelle Mamasson dans le temps et qui a été débaptisée, donc qui s'appelle maintenant Gökçe, c'est entre Aksaray, toujours en Anatolie, et la Cappadoce. On a noté que ce village s'est vidé de sa population, mais depuis une quinzaine d'années, des touristes grecs reviennent, alors qu'ils connaissent la région parce que leurs ancêtres y étaient, leurs grands-parents ou autres, et on a vu que ce lieu saint qui était partagé autrefois, puis qui est devenu par la force des événements donc un lieu saint donc musulman, redevient à nouveau partagé, puisque les chrétiens sont accueillis et peuvent, alors bon, la tradition c'est que ce saint est guérisseur, donc il faut rester 2-3 jours dans ce lieu pour pouvoir être guéri. Et il y a, dans les traditions qui ont été refabriquées, on a refabriqué, la légende ancienne était chrétienne. Mais les musulmans, lorsqu'ils ont refabriqué, ils ont placé un saint musulman dans les années 1920-1930. Lorsqu'ils ont refabriqué cette légende, ils l'ont fait dans un esprit d'ouverture, puisqu'ils ont indiqué que ce saint musulman était ouvert à toutes les confessions, et d'après la tradition orale fabriquée récemment, il récitait le catéchisme chrétien la journée et le catéchisme musulman la nuit.
Nous sommes en compagnie de Thierry Zarkon ce matin pour évoquer chrétiens et soufis en Anatolie. Donc nous sommes donc en Turquie centrale, mais vous évoquez aussi, je crois, les Balkans, où il y a eu ce phénomène aussi de rencontre, donc en cette branche du soufisme qu'on a appelée les Bektachis, le bektachisme, et des communautés chrétiennes locales qui peuvent être arméniennes ou grecques pour l'Anatolie, mais je crois que c'est le cas aussi pour les Balkans.
Alors dans les Balkans, on peut citer deux grands sanctuaires. Le premier est un sanctuaire très ancien, puisqu'il est lié à un personnage du XIIIe, XIVe siècle, donc qui se trouvait dans ces régions avant même, naturellement, que la Thrace ne devienne ottomane. Et ce personnage s'appelle Sarıçaltuk. Mais à l'époque, son mode de vie, une espèce d'ascète particulier, a fait qu'un dignitaire donc musulman l'a critiqué en indiquant on ne sait pas trop qui est ce personnage, on ne sait pas s'il est chrétien, on ne sait pas s'il est musulman. Donc très vite, pour les populations locales, Sarıçaltuk, le musulman si on veut, est devenu Saint Nicolas.
Donc un personnage qui était déjà vénéré par le peuple et qui tout d'un coup a changé de paroisse.
En fait, et qui garde cette double identité. Ce qui explique que le sanctuaire est partagé et il est toujours aujourd'hui encore. Donc
nous sommes dans quel pays maintenant ?
Là, on se trouve dans tout près du delta du Danube, donc en Roumanie, où se trouve donc ce sanctuaire de Sarıçaltuk, connu aussi comme étant Saint-Nicolas.
C'est un lieu que vous connaissez, que vous avez visité ?
Alors, pas cette partie-là, je l'ai surtout étudié. En revanche, je peux vous parler d'un deuxième sanctuaire qui se trouve là en Bulgarie, tout près de Varna. Et ce sanctuaire est dédié au saint Akyazılı. Et ce saint-là est aussi connu par les chrétiens sous le nom de saint Athanase. Donc encore une fois, on a un personnage hybride qui appartient donc aux deux traditions hagiographiques, musulmane et chrétienne, soufie, on pourrait dire, parce que c'est plutôt un saint soufi. Et à cet endroit, donc, petit village de Obrociste, près de Varna, se trouve le plus grand sanctuaire Bektachi du monde ottoman. Plus important même que celui d'Hagi Bektaş, qui est en partie détruit, et qui était partagé et même disputé. Parce que dans le temps des guerres turco-russes dans cette région, selon que les Russes avaient conquis le secteur, on faisait disparaître le croissant qui se trouvait au sommet du mausolée du saint et on le remplaçait par une croix. Et lorsque les Turcs reprenaient la région, on remettait le croissant à la place de la croix. Mais on n'a jamais détruit le lieu. Alors qu'on sait que dans certains cas, lors des oppositions entre chrétiens et musulmans, on détruit volontiers les lieux de culte de l'autre. Là, comme c'est un lieu de culte partagé que chacun revendique, il reste présent, mais on essaie de masquer son identité précédente.
Vous êtes historien, Thierry Zarkon, vous connaissez bien l'histoire des peuples turcs, vous connaissez bien l'islam, le soufisme, dans toutes ses ramifications. Est-ce que vous êtes surpris de ce phénomène de conservation, disons, de cette habitude de cohabitation ? On peut parler de fraternisation, peut-être ?
Oui, on peut parler aussi de fraternisation dans la mesure où, par exemple, en Grèce, dans certains cas, les soufis, Bektachi, Alevi, Et les chrétiens, par moments, sont fait des cadeaux. Donc, les deux, par exemple, avaient noté qu'ils donnaient autant d'importance à la lumière l'un que l'autre. Ils ont noté, bon, on a un rituel, par exemple, chez les Bektachi, qui s'appelle le réveil des chandelles. Donc, c'est tout un cérémonial complexe d'allumage de chandelles, de transmission de la lumière. Et naturellement, les Bektachi ont été, lorsqu'ils ont découvert le lucernaire de Pâques, par exemple, chez les chrétiens, ont immédiatement établi qu'il y avait une espèce de point commun, qu'ils partageaient le respect, la vénération de certains symboles et des symboles jusqu'à certaines formes de croyances. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans certaines petites villes d'Épire, dans le temps où les musulmans et les chrétiens étaient en nombre important, on offrait des candélabres, des bougies, de l'huile, selon la richesse des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui encore en trace des sanctuaires à l'origine Bektachi, peut-être installés sur une ancienne église ou un ancien sanctuaire chrétien, Bon, ensuite, l'architecture est typiquement musulmane, donc Bektachi, mais les lieux sont partagés dans la mesure où on a d'un côté, par exemple, la profession de foi écrite en arabe au-dessus de la porte qui conduit au tombeau, mais à un mètre ou deux, on a une icône chrétienne, une icône de la Vierge, par exemple, qui est posée avec quelques bougies. Donc, les cultes se font à côté. Ils ne sont pas hybridés, mais ils sont à côté.
Vous m'avez parlé aussi de prêtres devenus soufis sans avoir besoin d'apostasier, c'est-à-dire de devenir musulmans. Cette tradition s'inscrit dans des textes particuliers? Est-ce qu'il y a de la poésie? Est-ce qu'il y a des textes auxquels on peut se relier, justement, qui justifient cette possibilité?
Oui, alors d'abord, il faut dire que le bektachisme avait une telle ouverture que certains chers du bektachisme, pas tous, hein, au début, à la fin du 19e et au début du 20e, ont établi qu'ils pouvaient recevoir un chrétien, qu'ils pouvaient initier dans leur système un chrétien sans lui demander d'apostasier sa religion. Donc, c'est quelque chose de extraordinaire, donc,
et
en
islam,
et unique. Mais c'était même contesté au sein du bektachisme, c'est assez étonnant. Mais on connaît certains chers qui l'ont accepté, et on a des exemples de prêtres arméniens ou grecs, ou tout simplement de croyants, qui ont été initiés, et bon, qui nous ont laissé quelques textes, très peu de prose, plutôt de la poésie. Et l'un d'entre eux, donc, c'est un prêtre grec, celui-ci, lorsqu'on lui a posé la question de savoir, alors c'est un folkloriste à l'époque, qui faisait une enquête et qui lui a dit, mais comment ne trouvez-vous pas qu'il est incompatible, il serait incompatible d'être à la fois un prêtre chrétien et un bektachi? Et celui-ci lui répond, tout simplement, en citant le fameux Sarısaltuk dont je vous ai mentionné le nom. Donc,
le saint musulman dont nous parlions tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, qui était un illustre saint bektachi du XIIIe siècle. Et voilà ce qu'il dit.
L'illustre bektachi connu sous le nom de Sarısaltuk n'était-il pas en même temps un prêtre aveugle du nom de saint Nicolas, point d'interrogation. Le nom n'est qu'illusion, dit-il, mon enfant, regarde, le cœur, le cœur.
Voilà ce qu'écrit ce grec. Certains vont plutôt s'exprimer sur le mode poétique. Peut-être on y reviendra ensuite. En particulier, l'un nous dit, alors peut-être je pourrais un grec, Yorgi Saliki, qui nous dit « Dévot, ne nous interdit pas de rechercher la beauté. Nous sommes heureux quel que soit le lieu où nous la contemplons. Toi, lis l'évangile entre quatre murs. Nous apprenons l'évangile du cœur. »
Nous sommes véritablement au cœur du soufisme par ces paroles.
Et au cœur d'une très grande ouverture du soufisme. Il faut voir qu'un des principes du soufisme, et ce principe est vraiment développé dans le bektachisme, est que dans la lecture du Coran, il faut chercher le côté caché des versets, ce qu'on appelle le batn, le secret. Il faut chercher ce côté secret, et ce côté secret, normalement, devrait confirmer dans les soufismes très orthodoxes, le verset, le sens apparent du verset. Mais très souvent, dans les formes de soufisme les plus ouvertes, les plus souples, ce côté secret, parfois, infirme ou tout simplement rejette. Donc, ce qui permet une ouverture extrêmement importante. Et, de facto aussi, la condamnation comme hérésie venant de l'islam plus radical, plus littéraliste, on peut dire.
Est-ce qu'on peut supposer, Thierry Zarkon, qu'au fond, ce rapprochement, cette fraternisation n'est pas à la marge, finalement, d'un mouvement plus important qui est quand même le chacun chez soi, le chacun pour soi? Est-ce que les chrétiens, ces prêtres chrétiens arméniens et grecs dont vous me parlez, qui participaient à la SEMA, au culte bektachi, est-ce qu'ils étaient bien vus dans leurs propres églises?
Alors, parfois, ils étaient critiqués aussi.
Ah bah oui.
Et on sait que certains donc sont obligés de se... Bon, parce que parfois, certains sont des prêtres qui ont en même temps donc une communauté. Alors, ils ont parfois... ils doivent se défendre. Mais bon, ils essaient de se trouver entre les communautés pour éviter les affrontements. Et bon, c'est pas facile. Mais il faut voir que, par exemple, les assemblées bektachi sont des assemblées où des personnes échangent, lisent de la poésie, mangent ensemble, puis après participent à des rituels. Et on a le cas, par exemple, le folkloriste donc j'ai mentionné, qui a été très intéressé par ces chrétiens devenus bektachi, raconte qu'un jour, il voit arriver un prêtre arménien au moment pour une cérémonie de bektachi. Bon, c'est assez secret, le bektachisme. Le prêtre arménien arrive avec son vêtement donc de prêtre. Il le perd de vue quelque temps, puis une fois dans la salle de cérémonie, il cherche des yeux ce prêtre. Il ne le trouve pas. Ben, il comprend pas. Alors là, il va commencer à prendre chacune des personnes les unes des autres, de les observer. Et il découvre le prêtre arménien qui porte la fameuse coiffe à 12 tranches de Bektachi. Il a en fait tout simplement, il porte tout simplement le vêtement des derviches soufis, Bektachi, parce que il est membre de ce groupe, il a été initié et ça ne le gêne absolument pas.
Sans utiliser des mots trop savants, est-ce qu'on peut parler de supraconfessionnalisme d'une certaine manière ?
Alors, c'est la forme particulière que la posture que j'appelle au départ l'interconfessionnalisme peut prendre. C'est-à-dire, c'est une posture assez rare, ce supraconfessionnalisme, mais il signifie qu'à un certain moment, des soufis ont estimé que leur voix, ils ont dépassé un certain côté cette voie, et ils sont au-dessus des religions en quelque sorte. Ils sont dans une espèce de non, d'espace non religieux, qu'on appellerait pérennialisme par exemple aujourd'hui, mais qui n'était pas vraiment vécu de cette manière. Et certains donc se sont exprimés de cette manière. Et on a d'ailleurs une poésie écrite par un chrétien.
J'ai lu ce que tu appelles Torah, j'ai lu ce que tu appelles Évangile, j'ai lu ce que tu appelles Coran. Mais tous trois sont vides, point de suspension. N'est-ce pas la façon la plus claire d'exprimer cette postulat du supraconfessionnalisme ?
Alors, on a très peu d'exemples, mais celui-ci en est un exemple tout à fait étonnant. Donc. Et bon, on peut se poser la question aussi maintenant du devenir du bektachisme, qui a été un peu affaibli avec l'interdiction des confréries par Mustafa Kemal Atatürk en 1925, mais qui néanmoins se manifeste toujours et est toujours présent et naturellement défend toujours ses principes donc d'une très grande ouverture à l'autre et en même temps d'une démarche donc spirituelle et initiatique extrêmement puissante.
La voie de cette fraternité possible
à travers ce mode confrérique, je dirais tout à fait.
Nous n'éprouvons de haine pour personne, l'étranger aussi est notre ami, nous n'éprouvons de haine pour personne, pour nous le monde est un. Voilà, avec Thierry Zarkon, je tenais à ce que nous terminions sur une citation de Younous Emre. Merci Thierry.
Merci.
Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer, mais je voudrais aussi remercier Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Olivier Dupré pour la réalisation de cette émission. Bon dimanche.